RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Et le journal. Bonjour Juliette Pietraszewski.
Bonjour Julien, bonjour à tous. À la une de ce journal, au lendemain de frappes israéliennes en Iran, Téhéran fait état de 4 militaires tués. En parallèle, au sein même d'Israël, l'opinion publique se divise sur cette opération. Reportage en début de journal. En Colombie, la COP 16 se poursuit jusqu'au 1er novembre et on s'intéressera à une étude scientifique publiée dernièrement. La déforestation augmente le risque de paludisme. Explication dans ce journal. À suivre également des élections législatives au Japon où le gouvernement tente de faire peau neuve malgré un scandale politico-financier et une augmentation des prix. En Géorgie, lendemain des législatives avec des résultats qui donnent pour l'instant le parti du rêve géorgien proche de la Russie en tête avec près de 70% des voix. L'opposition crie à la fraude et parle de coup d'état constitutionnel. Et puis de la musique, le rappeur ghanéen manifeste en voûte les anglo-saxons avec son dernier single.
Au Proche-Orient, après les frappes d'Israël sur l'Iran ce samedi, Téhéran affirme avoir le droit et le devoir de se défendre, malgré les appels à la retenue.
Dans cette attaque israélienne qui visait des sites militaires, 4 militaires iraniens ont été tués, précise l'Iran, qui parle également de dégâts limités. De l'autre côté, en Israël, ces frappes divisent la classe politique. Dans l'opinion publique, des réactions mitigées se font également entendre. Michel Paul a tendu son micro dans les rues de Jérusalem.
En civil, mais il ne quitte pas son fusil d'assaut. Arnon est réserviste. Après Gaza, il sert maintenant au sud Liban. Pour lui, les frappes israéliennes sur l'Iran sont une bonne chose.
Super. Il faut montrer de la puissance maintenant. Nous sommes en guerre. Je crois aussi qu'il faut arriver à un accord politique. Mais dans notre situation, il y a une dynamique positive pour faire preuve de force et montrer à l'Iran qu'il ne faut pas jouer avec nous. C'est totalement positif.
Plus partagée, Lilar se pose des questions. Elle craint une escalade et aussi les répercussions au sein de la société en Israël.
Malheureusement, on n'a pas d'autre choix que d'agir ainsi. Israël doit se tenir debout fermement et se défendre. Malheureusement, cela entraîne des choses moins sympas. Mais j'ai confiance dans l'armée. Elle fait ce qu'il faut faire.
À la fin du Shabbat, Tzvi vient d'entendre les nouvelles à la radio. Pour lui, toutes les options sont possibles.
Je pense que c'est normal, c'est une riposte normale aux 200 missiles qui ont été envoyés sur Israël le 1er octobre. Voilà. Je pense que les Iraniens vont peut-être riposter. Ça n'est pas impossible.
La guerre est loin d'être finie, estime-t-il encore. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et au Liban, un nouveau raid israélien sur la banlieue sud de Beyrouth ce dimanche matin, annoncé par l'agence de presse nationale libanaise ANI.
Précédemment, l'armée israélienne avait appelé les résidents de 2 quartiers de la banlieue sud de la capitale libanaise à évacuer leur logement sur le front libanais. L'armée israélienne a fait également état de 80 projectiles tirés par le Hezbollah depuis le Liban. Le Liban, où depuis le 23 septembre dernier, Israël mène une offensive et divise les bastions du Hezbollah. Depuis le début de cette opération, plus de 1600 personnes ont été tuées au Liban, d'après un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Plus d'1 300 000 personnes se seraient également déplacées dans et à l'extérieur du pays depuis le début de cette offensive israélienne.
Direction la Colombie, où les discussions sur la planète et la protection de la biodiversité se poursuivent jusqu'au 1er novembre à Cali.
Et en pleine COP 16, une étude publiée dans la revue scientifique PNAS fait le lien entre déforestation et augmentation des cas de paludisme en Amazonie brésilienne. Alors comment expliquer ce lien, Julien ? Eh bien, en coupant la forêt, les hommes créent les conditions idéales pour que le moustique porteur du paludisme se reproduise et transmette ensuite la maladie à l'homme. On y revient avec Jeanne Richard.
En Amazonie, le moustique qui transmet le paludisme à l'homme préfère les habitats partiellement ensoleillés, avec de l'eau peu profonde et propre, sans matière organique en décomposition. C'est rarement le cas dans la forêt vierge où la lumière est rare. En revanche, en lisière de forêt, les conditions idéales sont réunies pour la reproduction de ces moustiques. Avec la déforestation, le nombre de zones frontières entre forêts et espaces déboisés augmente. Conséquence, le nombre de moustiques explose et les hommes qui arrivent en masse augmentent ainsi leurs chances d'être piqués et de tomber malades. Les chercheurs ont ainsi montré qu'une augmentation de la déforestation de 1% entraînait une hausse de plus de 6% des cas de paludisme. L'augmentation du nombre de cas est spectaculaire dans les parcelles déforestées pour l'exploitation minière illégale où l'homme reste proche de la lisière de la forêt. Si le paludisme est également lié à d'autres facteurs, de lieux, de température, nourriture ou de conditions de vie, ces résultats soulignent tout de même les risques pour notre santé lorsqu'on perturbe trop la nature.
Jeanne Richard, et dans l'actualité également cette déclaration du président du Venezuela, Nicolas Maduro. Personne ne fera taire mon pays. Cette prise de parole intervient alors que le Venezuela a été empêché d'entrer dans le bloc diplomatique des BRICS par un veto du Brésil. Les relations se sont tendues entre les deux nations depuis la réélection contestée par l'opposition de Maduro.
RFI 15h05 à Tokyo, les bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin au Japon pour des législatives qui pourraient coûter cher au gouvernement.
Et pourtant, le nouveau Premier ministre Shigeru Ishiba a déclenché ces élections anticipées. Mais le scrutin s'annonce serré puisque son parti, le Parti libéral-démocrate, est touché par un scandale politico-financier. L'envolée des prix après 30 années de déflation va aussi influencer le vote des électeurs. Le pays a perdu cette année sa place de troisième puissance économique mondiale au profit de l'Allemagne. Le pouvoir d'achat des Japonais est en berne et sans être catastrophique, la situation est plutôt morose sur l'archipel. Justine Fontaine.
Le Japon devrait péniblement atteindre 0,3% de croissance d'ici à la fin de l'année, contre 1,7% l'an dernier. Le pays est habitué à des taux de croissance faibles, c'est vrai, mais il faut ajouter à ça deux éléments récents qui pèsent sur le portefeuille des Japonais. D'abord, l'inflation, qui était quasiment nulle depuis 30 ans, tourne désormais autour de 2% depuis le début de la guerre en Ukraine. Ensuite, la monnaie nationale, le yen, a perdu près d'un tiers de sa valeur face au dollar depuis 2021, une chute qui rend plus cher les produits importés, notamment le riz ou encore l'essence et le gaz. La hausse des prix a poussé les entreprises à augmenter les salaires, d'autant que dans un pays vieillissant, la main-d'œuvre qualifiée en âge de travailler devient plus rare, mais la consommation reste atone. Pour la relancer, le Premier ministre a défendu l'idée d'un nouveau plan d'aide, avec notamment des subventions sur le carburant.
Des promesses de subventions qui creuseraient encore l'énorme dette publique du Japon, déjà l'une des plus élevées au monde, et qui ont été critiquées cette semaine par le Fonds monétaire international.
En Géorgie, les législatives du pays se sont déroulées, elles, hier, et le pays semble s'éloigner de l'Union européenne.
Oui, c'était un scrutin crucial pour l'avenir européen de ce petit pays du Caucase. Or, le parti au pouvoir, le rêve géorgien pro-russe, est en tête avec 70% des voix, selon les bureaux de vote dépouillés. Le dépouillement qui en est resté là pour le moment, ce qui inquiète les électeurs de Tbilissi, rencontrés devant le Parlement, Robin Dussène.
Accréditation d'observateurs nationaux autour du cou, ce groupe d'amis discute une nouvelle fois des élections législatives. Mais difficile de décrocher quand on s'est investi personnellement.
Punaise, quel stress, je suis en pleine crise de nerfs.
Alexandre a surveillé un bureau de vote de Tbilissi toute la journée et n'a constaté aucune irrégularité. Alors le jeune homme veut y croire, certain que les Géorgiens veulent se débarrasser du pouvoir actuel.
Il reste 30% des bulletins à dépouiller et je pense qu'on peut le faire. Mathématiquement, on peut peut-être changer le résultat et peut-être vivre dans une Géorgie européenne.
Si au cours de cette campagne, la démocratie géorgienne a été malmenée, en témoignent les intimidations, le chantage et les tentatives de bourrage d'urne survenues hier. Satya reste confiante quant au résultat final.
À chaque dépouillement auquel nous avons participé en tant que volontaires, je peux vous dire avec certitude que le rêve géorgien ne peut pas se targuer d'avoir remporté un succès fulgurant.
En attendant les résultats définitifs, les sympathisants pro-européens entendent bien mettre la pression sur la Commission nationale électorale pour que toutes les fraudes commises soient recensées. Tbilissi, Robin Dussène, RFI.
Et du côté des réactions, Tina Bogoutcheva, chef du Mouvement National Uni, un des quatre partis de la coalition d'opposition, a fait des déclarations cette nuit. Nous ne reconnaissons pas les résultats faussés d'élections volées. Le leader du parti Akali, Nika Gvaramia, dénonce lui une usurpation de pouvoir et un coup d'État constitutionnel et assure, je cite, avoir décrypté le schéma de falsification du scrutin.
On vote aussi en Bulgarie avec, là encore, des législatives aujourd'hui.
Les Bulgares sont appelés aux urnes pour la 7e fois en 3 ans. Le pays est dans une impasse politique sans précédent. Au fil des scrutins, les partis bulgares peinent à s'entendre pour former un gouvernement. Les rares coalitions qui ont vu le jour ont été éphémères. Alors comment expliquer un tel blocage? Margot Ratézic a posé la question à Romain Lequignoux, directeur du Centre de réflexion eurocréative sur l'Europe centrale et orientale.
Alors l'explication la plus simple, c'est de dire que ces partis politiques sont peu enclins au compromis. Ce sont des partis politiques qui généralement, pour la plupart en tout cas, sont constitués autour de personnalités fortes, autour de personnalités clivantes, autour de personnalités qui ont du mal à cohabiter au sein de même gouvernement. Donc on a un problème pour former des coalitions. Et une fois que des coalitions sont formées, elles tombent rapidement et donc on repart sur un cycle électoral. C'est problématique.
Romain Le Quinou du Centre de réflexion eurocréative, joint par Margot Ratézic.
RFI 8h10 à Kisangani dans le nord-est de la RDC. Le président Félix Tshisekedi vient de finir sa mission d'itinérance dans la ville située dans la province de la Tshopo, avec l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka hier.
La première pierre de ce chantier gigantesque avait été posée en 2017 sous le régime de Joseph Kabila. Les travaux ont pris fin en 2023 avec le président Tshisekedi. Avec cette infrastructure aéroportuaire, le gouvernement congolais compte désenclaver cette partie du pays à faibles voyageurs vers l'étranger. Joseph Kango.
Devant le terminal de l'aéroport international de Kisangani, sous les acclamations du public, le président Félix Tshisekedi coupe le ruban symbolique. Visite ensuite du bâtiment capable de prendre en charge plus de 300 passagers en heure de pointe. Dans son allocution lors de la cérémonie, le ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, souligne tous les avantages pour la province de la Tshopo.
En inaugurant cet aéroport, nous ouvrons également la voie à de nouvelles opportunités. Nous créons des emplois. Nous facilitons l'accès au marché et nous renforçons les liens entre les différentes provinces de notre pays. Cet aéroport a pour vocation d'accueillir plus de vols internationaux.
Depuis la pandémie de la Covid en 2020 et suite à la trop faible fréquentation, l'aéroport de Bangoka ne recevait plus de vols internationaux. Jean Bamanissa, sénateur et ancien gouverneur dans la région, égrène les possibilités pour pallier au manque de passagers à Kisangani.
Dans notre plan, il était question que nous puissions transformer par exemple l'or ici même à l'aéroport pour pouvoir exporter directement à partir d'ici. Et aussi, cet aéroport devrait servir aussi de base logistique parce qu'il est possible d'avoir un atelier technique pour qu'on puisse faire les entretiens des avions ici même, le centre de pilotage aussi.
En RDC, sur 252 aéroports et aérodromes, 38 sont opérationnels et seulement 20 reçoivent régulièrement des vols. Joseph Kaongo, Kisangani, RFI.
Et on termine en musique, Julien, avec la dernière merveille du rappeur ghanéen Manifeste, Puff Puff, une ode à la résilience qui confirme le talent de parolier de celui que la presse britannique qualifie de meilleur rappeur africain. On y revient avec Olivier Roger.
Lorsque l'on est ghanéen, le highlife est une seconde nature, le rap une vocation et le jazz un amour durable. Manifeste réunit les trois dans ses trop rares compositions. Puff Puff, Keep the Fire Burning, ou Garde la Flamme en français, est une brillante démonstration de ses talents de compositeur et de parolier. Ses textes, où il est souvent question des difficultés, surmontables ou non, de la vie quotidienne, éblouissent les critiques anglaises, qui l'ont élu meilleur rappeur du continent, flatteur et réducteur à la fois, tant son talent dépasse les genres musicaux. Manifeste, qui a collaboré par le passé avec la star de la soul américaine Erykah Badu, le compositeur britannique Damon Albarn ou encore le célébrissime nigérian Burna Boy, ne rechigne jamais aux expériences de fusion musicale. Il a sorti le mois dernier un single avec les jazzmen anglais d'Ezra Collective, de quoi encore renforcer son aura auprès de la jeune génération de musiciens européens. Morning tea, collect my thoughts like church offering. Dress to impress the fit, that be marketing. Silence deafening, the ringtone
bargaining. The streets say cash for ass, that's bargaining. Et c'est sur ces quelques notes de musique que je vous laisse, Julien.
Et je vous remercie, Juliette Pietraszewski, à tout à l'heure. RFI Matin, la suite. Un nouveau journal Afrique dans un peu plus d'un quart d'heure, cap notamment sur le Burkina Faso. En plein pendant sa 35e édition, le Tour cycliste du Faso retiré du calendrier de l'Union cycliste internationale. Résultat de la participation d'une équipe russe. On en parle avec Thomas de Saint-Léger. On ouvrira aussi notre dossier du jour au Cameroun, à Yaoundé, où le festival de cinéma Écran Noir s'est terminé hier soir. À suivre d'ici là notamment notre tour du monde des correspondants. C'est dans ta nature. Et tout de suite les sports. Avec vous Christophe Diremzian du football et le FC Barcelone qui a donné une leçon au Real Madrid hier soir en Liga.
Quand Classico rime avec fiasco pour les merengues, écrasés 4-0 à Santiago Bernabéu, les joueurs de Carlo Ancelotti ont pris le bouillon en seconde période sur un doublé éclair de Robert Lewandowski, un but du jeune prodige Lamine Yamal et le coup de grâce de Rafinha. Aucune réponse de Vinicius ou de Kylian Mbappé, pris au piège du jeu, du hors-jeu, 8 fois, ce qui lui a coûté d'ailleurs 2 buts invalidés. Le Barça confirme par cette démonstration qu'elle est l'équipe la plus redoutable de la saison offensivement. Et ce succès de prestige ravit son défenseur Alejandro Balde.
Oui, c'était un match incroyable, surtout parce qu'on prend les 3 points dans un stade aussi difficile que celui-ci. Je suis très heureux de cette victoire. La vérité, c'est que nous avons bien fêté ça, c'était un peu fou. Au final, gagner ici, c'est toujours une immense joie. La semaine a été incroyable. Nous avons été clairs dès le départ, on voulait gagner les 3 matchs contre Séville, le Bayern de Munich et Madrid. Et c'est ce qui s'est passé. Nous allons continuer comme ça parce que la saison est longue et qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je ne pense pas qu'on ait de limite. En fin de compte, le Barça doit gagner tous les titres. C'est notre ligne de conduite. Ce soir, je n'ai pas été surpris par la faiblesse du Real. J'ai été surpris par notre force. On a joué à un grand niveau. C'est ça qu'on doit retenir ce soir nous concernant.
Alejandro Balde avec Pierre Chaperon au classement. Le Barça possède désormais 6 points d'avance sur le Real.
Du Classico au Classique, Marseille et le PSG se retrouvent ce soir au stade Vélodrome en clôture de la 9e journée de Ligue 1.
Ambiance brûlante en perspective, comme toujours, même sans supporters de la capitale, interdit de déplacement, car le choc est plus attendu que jamais. Il semble d'ailleurs plus équilibré, c'est la raison pour laquelle il est très attendu. Les deux équipes sont en forme en championnat. L'OM, 3e, n'est qu'à 3 longueurs du leader parisien. Piment supplémentaire, la présence désormais du néo-marseillais et ex-joueur du PSG, Adrien Rabiot. Grande première aussi sur le banc pour Roberto De Zerbi, l'entraîneur italien, conscient du gros travail défensif à produire pour décourager l'adversaire.
C'est vraiment difficile de défendre contre cette équipe parce que si on bloque l'axe, le milieu de terrain, on risque de laisser Dembélé et Barcola dans les couloirs en 1 contre 1. Et si nous bloquons les ailes, cela leur donne plus de possession de balles. Il ne faut pas oublier que nous sommes l'OM et que nous voulons avoir le ballon. Ce sera difficile, il faut respecter ces champions de France. Quand on signe à l'OM, il faut avoir l'ambition de gagner ce genre de match. Sinon, autant changer de club.
Roberto De Zerbi, OM PSG, coup d'envoi 19h45, temps universel. Hier, Lille a remporté le derby du Nord à Lens 2-0, Angers a dominé Saint-Etienne 4-2 et Brest est allé gagner à Reims 2-1. Aujourd'hui, hormis le classique, Lyon-Auxerre, Strasbourg-Nantes, Nice-Monaco et Montpellier-Toulouse. La 9e journée de Première Ligue avec l'affiche Arsenal-Liverpool à 16h30, temps universel. Hier, le leader Manchester City a battu la lanterne rouge Southampton 1-0.
Et puis en Italie, l'Inter Milan reçoit la Juventus Turin dans un choc de la 9e journée de Serie A.
Un seul point, c'est par le champion en titre milanais de son adversaire. Les deux clubs sortent d'une semaine européenne assez contrastée. Les Nerazzurri l'ont emporté in extremis à Berne, tandis que la Juve a perdu son invincibilité contre Stuttgart dans les mêmes circonstances. Elle se présente donc à San Siro avec moins de certitude que l'Inter, mais l'entraîneur milanais Simone Inzaghi préfère ne pas s'aventurer dans le petit jeu des pronostics.
Bon, vous savez très bien ce que je pense des pronostics et des palabres sur qui est favori ou qui ne l'est pas. Je le dis et je le répète, cette saison, le championnat sera plus ouvert parce qu'il y a de nombreuses équipes qui ont dépensé beaucoup d'argent et ont rattrapé leur retard. Maintenant, nous verrons bien. Mais je vous le garantis, ce championnat sera plus équilibré que les deux précédents.
Sarà un campionato molto più equilibrato rispetto agli ultimi due.
Simone Inzaghi interviewé, c'est à partir de 17h, temps universel. Un petit mot de Formule 1, c'est l'Espagnol Carlos Sainz Jr. qui s'élancera tout à l'heure en pole position du Grand Prix du Mexique devant le leader du championnat, le Néerlandais Max Verstappen, et son grand rival britannique en cette fin de saison pour le titre, le Britannique Lando Norris.
Christophe Diremger pour les sports, merci beaucoup, à tout à l'heure. Et dans Ligne de Défense ce matin, un nouveau reportage en coulisses avec un géant belge de l'armement spécialisé dans les armes automatiques et les mitrailleuses. L'entreprise FN Herstal dans la région de Liège est peu connue du grand public, mais bien plus des pays de l'OTAN qui s'équipent pour la plupart chez elle. La fabrique nationale belge, comme on l'appelait autrefois, a ouvert ses portes à quelques journalistes et Franck Alexandre en faisait partie.
Donc ici, on est dans la cour principale de la FN Herstal. Donc où derrière nous, on a un bâtiment de 1906, donc qui date de la création de la FN Herstal. On va aller ici à droite.
Et nous voilà dans le Saint des Saints,
la fabrique hautement sécurisée d'armes à feu FN, un immense complexe industriel de 13 hectares, 1500 salariés et un dédale d'ateliers. Frédéric est notre guide.
Avant tout, la FNRstal, c'est un centre d'usinage. L'armurerie, ça reste de la mécanique de haute précision.
Canon, culasse, crosse, les armes prennent corps sur les tables d'assemblage. Monter une mitrailleuse, c'est presque de la haute horlogerie, insiste le directeur commercial Henri Deharen.
Les tolérances sont extrêmement précises. Tout ce qui est pièces mobiles pour un fusil d'assaut ou une mitrailleuse doit être d'une immense précision. Nous devons travailler à des produits qui ont une durée de vie longue et une très haute fiabilité.
Et chaque arme doit passer une rigoureuse batterie de tests.
Chacune des armes individuellement va être testée dans les tunnels de tir là-bas derrière les murs. Et puis elles vont être redémontées, huilées, et puis remontées, emballées. Et la dernière étape, c'est la douane et puis ça part pour l'armée partenaire.
Quant aux munitions, elles sont fabriquées à Zutendal, à 40 km d'Herstal. Il y a également le champ de tir.
Lorsqu'on appuie sur la détente, on va en fait libérer l'ensemble des pistes mobiles.
Fusils d'assaut et de précision SCAR, mini-mitrailleuse MAC 58, pistolet mitrailleur, l'entreprise belge figure dans le top 4 du marché des armes de petit calibre. Les armes automatiques, c'est son ADN. FN équipe 80% des pays de l'OTAN. Henri Deharen.
Alors FN Herstal a été créé au 19e siècle, au départ pour équiper l'armée belge. L'entreprise est devenue un des leaders mondiaux dans son domaine, le domaine des armes légères. Alors on développe énormément de choses, ça peut être une amélioration des armes à feu elles-mêmes, et puis également des développements, par exemple dans le domaine technologique. Aujourd'hui on ajoute par exemple sur les armes des calculateurs balistiques qui vont permettre par exemple à des tireurs de précision, comme ceux de l'armée française, de tirer de manière extrêmement précise. On voit à quel point la défense redevient une question stratégique au cœur des décisions des États. C'est le retour d'une réflexion à long terme sur les questions de défense.
La France, qui ne produit plus ni fusils ni munitions de petit calibre, est un client fidèle de la FNRstal. Un partenariat est d'ailleurs à l'étude pour produire des munitions de la fabrique belge et ainsi rebâtir en France une capacité militaire critique qui, à ce jour, fait cruellement défaut.
Ligne de défense avec Franck Alexandre.
RFI Matin.
Et c'est une info qui a suscité l'émoi et la polémique en France. La vente par Sanofi du Doliprane, principale marque de paracétamol commercialisée dans les pharmacies françaises, à un groupe américain. La décision a relancé la réflexion sur la défense de la souveraineté française dans les domaines stratégiques, 4 ans tout juste après la pandémie de Covid. Et dans notre tour du monde des correspondants, regarde ce matin sur 3 pays où ce débat est aussi présent. Les États-Unis eux-mêmes sont confrontés au problème. C'est d'ailleurs un sujet de la campagne pour la présidentielle. Alors que l'emblématique US Steel, le fleuron sidérurgique américain, doit passer sous contrôle japonais, une acquisition à près de 15 milliards de dollars, désavouée par les deux candidats à l'élection, Karine Auton.
Cette offre de rachat est devenue tellement politique dans le paysage américain que les autorités ont décidé de ne trancher qu'après l'élection du 5 novembre seulement. US Steel a averti depuis un mois qu'un échec de la fusion avec Nippon Steel mettrait en péril des milliers d'emplois syndiqués aux États-Unis. Pire, que le sidérurgiste américain se détournerait de ses installations de hauts fourneaux et déplacerait son siège social de Pittsburgh en Pennsylvanie, pourtant porté par une remise à l'honneur du fabriqué aux États-Unis au cœur de leur campagne. Ni Kamala Harris ni Donald Trump ne se disent favorables à ce rachat et le président Joe Biden est complètement contre. Le puissant syndicat USW essaie de rallier à lui les syndicats locaux, convaincus que cette reprise japonaise est la bonne solution. Verdict dans quelques semaines.
Karine Auton à New York avec un rare sujet de consensus entre démocrates et républicains. On traverse l'Atlantique et on met le cap sur le Sénégal. Ici, depuis quelques mois, c'est le possible rachat d'un fleuron national de la volaille qui fait craindre un nouveau coup à la souveraineté alimentaire du pays, Gwendal Lavina.
Lorsque les discussions sur le projet de vente du leader sénégalais de la production de volailles sortent dans la presse début juillet, tout Dakar en parle. Il faut dire que Sedima, propriété de Babacar Ngom, est parmi les derniers champions locaux issus d'une entreprise familiale qui a su prospérer et rester sénégalais. Mais cela pourrait bientôt changer puisque l'américain Seaboard, qui a déjà racheté en 2017 les grands moulins de Dakar, un autre symbole national, compte bien mettre la main dessus. Après Patisen vendu en 2023 à des intérêts marocains et Avicen en mars dernier à un groupe singapourien, c'est un nouveau coup dur pour la souveraineté alimentaire du Sénégal. Le pouvoir politique, lui, encaisse le coup. Aucune entreprise sénégalaise ne peut rivaliser avec les sommes mises sur la table par les investisseurs étrangers, explique un analyste du secteur. Cela n'empêche pas l'exécutif de se mobiliser. Depuis qu'il est Premier ministre, Ousmane Sonko a ainsi rencontré les chefs d'entreprises sénégalaises pour les inviter à ne pas céder trop de leur capital à des intérêts étrangers.
Gwendal Lavina à Dakar. Enfin, même la puissance industrielle allemande n'est pas épargnée. Faire des affaires en Chine et avec la Chine, tout en préservant des secteurs stratégiques, c'est le grand écart auquel doit se livrer l'Allemagne, très dépendante des exportations, Pascal Thibault.
Les investissements chinois en Allemagne suscitent régulièrement des polémiques. Vont-ils de soi pour une économie ouverte sur le monde ou présentent-ils un risque, notamment dans des secteurs considérés comme stratégiques? La reprise du fleuron allemand des robots industriels KUKA en 2016 par un investisseur chinois a par exemple été approuvée, mais depuis, Berlin a durci les conditions pour autoriser de telles participations et souligne les objectifs politiques poursuivis parfois par Pékin. C'est un investissement chinois dans le port de Hambourg, dont le chancelier fut le maire, qui provoque un vaste débat. Ses alliés verts sont sur une ligne plus dure et à l'arrivée, la participation chinoise est revue à la baisse. Depuis, différentes reprises ou participations ont été bloquées, qu'il s'agisse de semi-conducteurs ou de turbines à gaz susceptibles d'être utilisées à des fins militaires. Leur importance stratégique ou le risque politique ont empêché ces investissements.
Pascal Thibault à Berlin pour RFI et notre tour du monde des correspondants à retrouver sur RFI.fr. Bientôt 6h30 en temps universel et un nouveau point sur l'info africaine dans 4 minutes tout juste. D'abord, comme chaque dimanche, on retrouve C'est dans ta nature. Et à quelques jours de la fin de la COP16 sur la biodiversité, coup de projecteur ce matin sur un animal témoin direct du réchauffement climatique, l'ours polaire dont l'existence est menacée par la fonte des glaces. Florent Guignard.
Il est le roi de la banquise, mais son royaume, l'Arctique, est en train de fondre.
La banquise disparaît à une vitesse importante, 90 000 km² par an.
C'est l'équivalent de la Jordanie. Christian Kern fait l'un des grands spécialistes de l'ours blanc qu'il côtoie depuis 50 ans, le plus grand carnivore terrestre, grand nageur et grand voyageur solitaire.
Il est extraordinaire. Il est obligé de vivre dans un climat extrêmement froid. En ce moment, par exemple, avec l'effet refroidissant du vent, le ressenti, c'est moins 70, c'est énorme. Il a un odorat environ 60 fois meilleur que celui de l'homme. Il se met toujours un peu en hauteur, parce que dès qu'il y a un obstacle, les odeurs remontent. Et l'ours, sur un iceberg, il dort, il a l'air de rien, mais fais-toi confiance, quand il a une odeur de phoque qui lui passe dans les narines, il réagit tout de suite.
Le phoque, c'est 95% de l'alimentation de l'ours polaire qui lui donne la graisse nécessaire pour se protéger du froid. Un mâle pèse à peu près 500 kilos et la moitié de son poids, c'est de la graisse. Alors quand la banquise disparaît, c'est son terrain de chasse qui rétrécit, mais l'ours blanc peut manger autre chose.
Il y a notamment les cadavres de baleines, c'est le cas aussi des morses. Parfois, on le voit même, je l'ai vu à plusieurs reprises, brouter de l'air ou manger des algues. C'est un pur carnivore, mais quand il n'a pas de phoque, ben, il prend autre chose.
J'avais pourtant fière allure dans mon costume en fourrure, mais j'ai quitté ma banquise, il n'y avait plus de friandises.
Il y a environ 20 000 ours polaires sur la planète, menacés à terme par le réchauffement climatique, mais aussi la pollution qui peut les rendre stériles. 8% des ours blancs du Canada ne peuvent pas se reproduire. Mais ce qui menace directement aujourd'hui les ours blancs, c'est la chasse. Christian Kampf.
Il y a une chose qu'on peut faire demain, après-demain. C'est un moratoire sur la chasse. À la place de tuer 1200 ours par an pour l'exportation de la peau, pour les griffes, les dents qui intéressent le marché asiatique, si on ne tuait que 500, on aurait assez rapidement, à l'espace de 15 ans, 30 000 ours.
À la sauvette, j'ai pu embarquer. Sur un iceberg, je me suis éloigné.
C'est quoi un gros lard ?
Alors, ce n'est pas une insulte, ça s'écrit en un seul mot, un gros lard ou un pizzly en anglais, est le fruit de l'accouplement d'un ours polaire et d'un grizzly, l'ours brun qui vit au Canada. Plusieurs de ces hybrides, apparemment moins bons nageurs et moins résistants au grand froid que les ours polaires, ont été retrouvés dans le Grand Nord américain. C'est à cause du réchauffement climatique, les ours blancs vont vers le sud et les ours bruns s'aventurent au nord. Après tout, il y a 600 000 ans, les deux espèces n'en formaient qu'une.
À la sauvette, j'ai pu embarquer
un iceberg, je me suis éloigné. Je parle aux mouettes, j'apprends le cétacé. Pour trois arêtes, j'ai failli me noyer.
Florent Guignard pour C'est dans ta nature et l'info africaine dans 30 secondes sur RFI.
Retrouvez RFI sur WhatsApp.
Vous pouvez recevoir l'essentiel de l'actualité internationale sur votre application de messagerie et réagir aux informations. Pour vous abonner, rendez-vous sur l'application WhatsApp dans la rubrique Actu. Tapez RFI dans la barre de recherche, demandez à suivre notre chaîne et activez les notifications.
La chaîne WhatsApp de RFI, c'est à retrouver sur votre téléphone mobile.